C'est 23.
Un condensé des meilleurs moments de Debout les comiques en format balado. Debout les comiques, juste le meilleur.
Debout, debout. C'est quoi? Debout, debout les comiques.
Là, c'est Astroval.
Oh oui.
Allô, Astroval.
Salut. Bonjour, merci de m'accueillir en studio. Ce matin, je vous parle de votre signe astrologique par rapport à votre sex appeal. Oh. Êtes-vous sexy, moyennement sexy, très sexy? Ça dépend de votre signe astrologique, mais il faut savoir à la base que chacun de nous est beau et attirant à sa manière, mais il y en a qui le sont plus, tout simplement. Voilà. Hey, politiquement correct.
Fait qu'il y a des pichous, là, on se dit.
Oui, c'est ça. Et le pichou numéro un, la 12e position du signe du zodiaque, c'est le Verseau. Le Verseau, c'est des gens qui aiment la solitude, qui s'ouvrent pas beaucoup à leurs partenaires. Ça fait en sorte qu'ils sont très réservés, pas très sexy.
Gargamel est Verseau, je pense.
J'en suis persuadée. Oui, même chose pour Voldemort. Oui, 11e position, Capricorne. On dit attention, le natif de ce signe ne sont pas des mauvais partenaires. Sauf qu'il y a une distance entre le Capricorne et tous les autres signes du zodiaque. Il va tout seul dans son coin, pas très sexy.
On salue Steve Bélanger, un fidèle qui vient de nous écrire, qui est Capricorne.
Ah, déso Steve. 10e position.
D'où l'expression arc, un Capricorne.
Ah oui.
On l'entend fréquemment. Hein? Dans la littérature, c'est très réputé.
Ouais,
là. 10e position, c'est le Taureau. On dit que tomber amoureux ou amoureuse d'une personne qui est née sous ce signe peut être la meilleure décision de votre vie. Ou encore la pire, parce qu'il est très, très têtu et ça en fait quelqu'un de moyennement sexy.
Parfait. Attends, ça, c'est les pichous du groupe. Maintenant, les beaux pétards.
On continue. 9e position, la Vierge. On dit que la Vierge cherche toujours les petits problèmes. C'est pas sexy, les petits problèmes.
9e sur 12, c'est encore lettre, ça.
C'est encore lettre. Ah oui, on n'est même pas rendu à moitié. 8, Balance. Ils sont créatifs et passionnés, mais ils sont bien dépendants. Ça entraîne des expériences négatives. Zéro sex appeal. 7e position, le Gémeaux. Comment exciter une personne née sous le Gémeaux? Ben, il faut être aussi passionné que lui. Sauf que c'est très intense à aller chercher cette personne-là.
Mon chum est Gémeaux.
Ah, ben, il est dans le milieu.
Il est fin, Antoine.
Ça commence à remonter.
Il est gentil.
La moitié des signes astrologiques, c'est Sagittaire, la 6e position.
Okay.
Fait que là, on commence à remonter doucement la pente, là, au niveau du sex appeal. Sagittaire, les gens qui sont nés sous le signe du Sagittaire aiment explorer de nouveaux horizons. Ça les rend assez sexy quand même. 5e position, Cancer.
Oh, je suis du bon côté de la montagne.
Oh, oui. Le Cancer, ils sont très passionnés et émotionnels, ce qui fait en sorte que tu as une relation avec des hauts et des bas.
Hein? Et pourquoi? On n'est pas de même.
Quoi? Oui. Alors voilà, ceci confirme cela. C'est sexy, mais ça fait pas partie du palmarès ultime. 4e position, le Lion. Le Lion, courageux, dominateur, goût particulier pour la vie romantique. Ça en fait quelqu'un de très sexy. Et maintenant, laissez-moi vous présenter le top 3.
Le podium.
Des signes du zodiaque qui sont des vraies bombes sexuelles. 3e position, Bélier. Des amants passionnés, des partenaires sensuels. Ils sont très près de la première place, mais c'est pas ça encore.
Ça aime se faire mal, les Béliers.
2e position, le Poisson.
Oh,
on dit que le Poisson préfère faire l'amour à l'ancienne.
Ah, c'est mon père, ça!
Une passion insatiable, un instinct naturel presque primitif pour le romantisme très sexy. Et position numéro 1, le Scorpion!
Ben non!
Non, non, c'est biaisé! On est 3 en studio qui sommes scorpions! Personne ne sait mieux aimer qu'une personne née sous le Scorpion, messieurs, dames. D'ailleurs, ce type d'individu est le plus passionné des partenaires.
Tellement!
Avec lui, vous avez l'impression d'être au paradis.
C'est tout moi.
Et vous vous surprendrez à dire « J'espère que ça s'arrêtera jamais. »
Mais voyons donc, c'est biaisé à se trouver les scorpions. Elle s'envoie des fleurs.
C'est zéro biaisé.
Tu as aucune idée de mon processus pour pouvoir rédiger ce type de palmarès-là. Le soir, avant de me coucher, je fais la carte du ciel, je regarde à l'extérieur. C'est très compliqué. Les journées nuageuses et quand il pleut comme cette semaine, j'ai travaillé très fort pour vous présenter ça.
Et là, ce que t'es en train de nous dire, Astroval, tu t'es pas cassé le cul pour rien, là.
Je me suis pas cassé le cul pour rien. Je suis en première position, mon Martin.
T'es comique? De retour après ceci.
Debout les comiques!
96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
C'est incroyable comment le grand public au Québec ne connaît pas ce qui s'est passé à Montréal.
Cameron used this combined sleep electroshock treatment on patients as long as 30 days.
Des Montréalais ont été soumis à leur insu à des expériences de lavage de cerveau.
The CIA became convinced the communists had found the key to brainwashing.
Dans les années 50.
Ça, c'est la bande-annonce d'un documentaire qui s'appelle MK Ultra, la fin du silence. Une histoire qui est complètement méconnue, mais qui a intéressé Rosemée Autonne-Témorin, qui est une autrice, mais aussi une réalisatrice. Mm-hmm. Puis j'ai fait une entrevue avec elle cette semaine pour savoir comment est-ce qu'elle avait entendu parler de cette histoire-là. C'est ça qui m'intéressait le plus à la base de notre rencontre. Elle m'expliquait qu'à la création de son livre « Ton absence m'appartient », elle avait rencontré une femme qui lui a expliqué une histoire, puis tout est parti de là.
C'est comme ça que j'ai rencontré Marilyn Rappaport, qui a vu sa sœur être hospitalisée pour les troubles de l'humeur dans les années 60. Et quand sa sœur est rentrée chez elle, elle avait un nouveau nom. Elle disait « C'est pas ma maison, c'est pas ma sœur, c'est pas ma famille. » Elle avait été « brainwashed ».
Elle a découvert que tout ça, ça se passait à l'Institut Allen Memorial de l'Université McGill.
C'est à côté ici, là.
Exactement. C'est un psychiatre qui s'appelle Donald Ewan Cameron qui utilisait des techniques comme des électrochocs. Il donnait du LSD. Il faisait en sorte que les patients tombaient dans un coma artificiel prolongé. Il leur envoyait dans la tête des messages enregistrés qui étaient répétés sans arrêt. Tout ça, c'était comme des moyens qui ressemblaient parfois à de la torture, mais qui étaient utilisés pour transformer l'identité des patients. Fait qu'on peut penser que déjà, c'est l'œuvre d'un psychiatre un peu fou, mais ça va encore plus loin que ça. Okay. En réalité, les personnes qui étaient à l'Institut, c'était les cobayes d'une vaste recherche qui était financée par la CIA. C'est incroyable.
Je savais que ça existait aux États-Unis. Je pensais pas qu'il y avait une antenne ici au Québec, ou au Canada, ou au Québec.
Ben
là,
oui. Mais c'est hyper méconnu comme histoire.
Ouais. Il y en a plusieurs qui relèvent, Nicole Hernandez et d'autres qui relèvent. Hey, il me semble que dans Victor Lessard, le roman de Martin Michaud, il en parle exactement. Il y a une référence directe à ça. Là.
Mais de plus en plus, dans la culture populaire, on en parle parce que c'est vraiment un dossier qui était fascinant. Parce que pour les familles qui ont eu un proche qui se sont ramassés dans cette expérience-là, il y en a plusieurs qui réalisent encore aujourd'hui que leur proche était là-dedans, ils ne savaient pas. Enfin, j'ai posé la question à Rosemée Autonne-Témorin. Quand est-ce que les familles ont réalisé que leur proche était passé de patient à finalement cobaye pour une expérience qui n'a pas d'allure?
Il y en a qui le savent depuis les années 70, il y en a qui le savent depuis quelques années seulement. Et depuis que la bande-annonce du film est sortie, je reçois moi-même des messages de gens qui se disent un peu « j'ai un proche qui était là dans ces années-là, de quoi tu parles? » Donc, c'est tellement encore méconnu que probablement des... Oui. Puis c'est une des raisons pour lesquelles on a fait le film, parce qu'il y a beaucoup de francophones qui ignorent ce qui s'est passé à l'époque à l'Institut Allen Memorial et qui ont donc potentiellement un proche qui a été un patient de Dr. Cameron et qui ne le savent même pas encore.
Incroyable!
C'est complètement fou. Dans le docu, elle va rencontrer le fils du Dr. Cameron, elle va rencontrer deux infirmières et elle va même avoir la chance de parler avec une patiente qui est toujours vivante. Ils vont parler des expériences secrètes qu'on faisait là-bas. Puis, elle va aussi suivre une soixantaine de familles qui, eux, entament une action collective contre le gouvernement canadien. Ils veulent avoir des excuses, ils veulent avoir des indemnités. Mais encore à ce jour, t'as le centre médical McGill qui refuse... Il refuse d'envoyer le dossier du patient qui a été traité entre les murs de leur institut
ça,
pendant ces années-là.
Ça me semble que c'est une obligation, non?
Ben, pas juste ça. Moi, j'ai posé la question à Rosemée. Mais pourquoi on cache ça? Ça fait des années.
Le temps a passé.
Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de dire, la gang, écoutez, je sais que ça a l'air fou, là. On s'excuse, autre époque, autre mœurs. Donc, j'ai posé la question à Rosemée.
C'est vraiment exactement ce que moi, je demande dans le film. Et parce que je veux juste être rassurée, je sais que les temps ont changé. Je sais qu'il faut analyser ce qui s'est passé avec le contexte de l'époque. Par contre, j'aimerais qu'on dise, voici ce qu'on a appris de cette période très sombre de l'histoire et voici pourquoi ça n'arrive plus aujourd'hui. Mm-hmm. Maintenant, les gens veulent pas en parler, probablement parce qu'en parler, ce serait reconnaître une part de responsabilité ou ce serait ouvrir une boîte de Pandore.
Mais c'est vraiment une histoire fascinante.
Très
intéressant. Tu vois, dans le dossier de cour, la prochaine audience à la Cour supérieure du Québec, c'est prévu pour le 18 mai. Mais d'ici là, évidemment, ce qu'on vous suggère de faire, c'est d'écouter le documentaire si le sujet vous intéresse.
On peut faire ça où?
Oui. On peut faire ça demain soir, le 1er mai, à 22h30, à ICI Radio-Canada Télé. C'est dans le cadre de Doc Humanité, une série de documentaires.
Ah oui, donc, ça risque de se retrouver sur le tout.tv aussi à un moment donné.
Absolument. Et okay. Le nom, c'est MK Ultra, qui est comme la fin, le programme en tant que tel. Donc, MK Ultra, la fin du silence, un dossier complètement méconnue.
C'est fou.
Mais qui touche énormément de gens.
Elle va faire œuvre utile avec ça.
Vraiment, je pense que oui aussi.
Et ouais. je me demandais, j'avais plein de sous-questions, mais je vais l'écouter puis on s'en reparlera peut-être parce que
on préfère un compte-rendu là-dessus.
Y a-t-il juste au Québec qu'il y a eu ces tests-là? Pourquoi le Québec? À cause du docteur ou à cause des francophones qui étaient moins que rien dans
ouais,
le
monde? Est-ce qu'on était peut-être un peu plus vulnérables à leurs yeux?
Je veux pas partir à rien, mais moi.
Manipulable. Ouais. Non, ouais. C'est sûr qu'on a tendance à le prendre personnel.
Tu sais, comment la CIA arrive ici? Pourquoi?
Ça, c'est quand même incroyable aussi, là.
Pour plus de tes comiques, écoute 96.9 C'est quoi du lundi au vendredi dès 5h25 ou rends-toi sur c'est quoi.com.
C'est 23.